Salut et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un coach sportif, le podcast dédié au coach sportif, c'est dans le titre tout simplement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Eri, mais avant de commencer cet épisode, je t'invite évidemment à t'abonner à la chaîne YouTube Jimki, à laisser le like et à laisser justement les avis positifs sur les plateformes d'écoute, notamment sur Apple Podcast, parce que ça nous aide énormément à nous développer, à faire connaître ce podcast à d'autres coachs sportifs. Moi, je te laisse avec Eri, on se retrouve à la fin de cet épisode. Bonne écoute et bon visionnage. Salut Eri.
Salut Momo.
Comment tu vas?
Eh bien, merci.
Merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui avec moi, où je vais te poser plein de questions pièges pour nuire à ta marque, tout simplement. C'est le but, tout simplement.
C'est pour ça que je suis là, d'ailleurs.
Pour commencer, Eri, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais?
Ok, brièvement, donc je m'appelle Eri, je suis coach sportif de reconversion. Donc d'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'a invité pour en parler. Je vais sur mes 39 ans. J'ai un parcours plutôt atypique, je viens de la finance, ça fait 3 ans bientôt que je suis dans le coaching sportif, et puis voilà, pour faire bref, je pense que c'est bref et concis.
Du coup, tu es passé de la finance au coaching sportif, mais déjà toi, pourquoi est-ce que tu as voulu devenir coach sportif?
Alors, pourquoi j'ai voulu devenir coach sportif? Donc pour brièvement faire mon parcours, j'ai fait une école de commerce. D'accord, j'ai fait majeur finance. J'ai eu l'occasion après mon diplôme de partir travailler au Canada en 2011-2012. J'ai bossé à Toronto. J'ai découvert le CrossFit là-bas. Et quand je suis revenu, j'avais déjà cette idée de me reconvertir dans le sport. Parce que j'avais beaucoup d'aspects que je voulais retrouver dans mon boulot au quotidien. Me sentir utile, pouvoir aider les autres. Et surtout, me lever le matin et vibrer un peu sur ce que je fais au quotidien. Pas rester devant un ordinateur, aller voir des banques, essayer d'aller chercher, faire des levées de fonds, ça va un temps, mais ça fait pas vibrer. Et vu le temps qu'on passe au travail, cet aspect de venir aider les gens, c'est vraiment quelque chose que je voulais retrouver dans mon travail. Voilà.
Ok.
C'est vraiment la principale raison pourquoi je suis venu là-dedans.
Mais du coup, c'est parce que tu as croisé est-ce que tu as eu un coach sportif qui t'a inspiré là-bas, ou c'est juste de dire aussi, je kiffe le sport, j'en ai marre de rester assis toute la journée et de faire des choses qui me font pas vibrer? Ou c'était quoi le déclic qui t'a vraiment poussé à te dire ouais, c'est bon, c'est là, j'y vais à 100%?
Alors moi, j'ai toujours fait beaucoup de sport, et c'est vrai que j'ai toujours bien aimé. Bon, j'ai fait rarement du sport seul, beaucoup de sport collectif, comme tout le monde, je pense que quand on a entre 20 et 30 ans, on fait de la muscu entre potes. J'ai toujours aimé cet aspect de venir essayer de challenger les autres, de dire bon, on essaye de aujourd'hui, on a des répétitions à faire en développé couché pour faire vraiment le stéréotype. On va dire, bon voilà, aujourd'hui on a fait 10 répétitions, demain on en fera 12. Voilà, ce genre de choses, et vraiment essayer d'arriver à booster les autres. Et pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui m'a donné envie. Et voilà, après quand tu as des retours de personnes qui disent, bah, c'est bien ce que tu fais, tu arrives à motiver les gens, ça te donne peut-être, je pense, un aspect supplémentaire pour venir passer le pas et aller vers du coaching.
Et ça a été quoi ton parcours? Parce que bon, j'imagine que t'as pas fait, t'es pas directement allé, vu que t'as commencé par la finance, c'est pas le truc classique, tu sors, tu fais BPJEPS et puis bazar. Donc t'as fait une école de commerce et ensuite t'as fait quoi après?
Alors, en sortant d'école de commerce, donc moi j'avais fait une majeure audit contrôle de gestion. Okay. Donc j'ai fait du contrôle de gestion en premier pour une SS2I. Ensuite, j'ai bossé aussi chez Vinci, dans la construction, donc un secteur d'activité complètement différent. Dans mon dernier boulot, donc j'étais contrôleur financier, pour terminer responsable administratif et financier.
C'est quoi le job du coup de...
Le job, alors mon dernier job, c'était, en plus j'étais sur une filiale en fait française, détenue par une fondation suisse. Et pour le coup, mon but, c'était de gérer toutes les finances. Et vu qu'on travaille dans les biotechnologies, c'est d'aller chercher des financements au niveau des banques pour investir dans les projets futurs de la boîte. Surtout que c'était des projets de recherche de R&D, recherche et développement. Donc pour le coup, c'était des projets plutôt longs, sur le long terme, moyen long terme, entre 5 et 10 ans. Donc il faut arriver à convaincre avec les bons arguments, de dire bon voilà, ce projet, il faut y croire parce que voilà, il y a des retombées économiques derrière. Et suivez-nous. et vous aurez un retour sur investissement. Parce que quand les banques te prêtent de l'argent, s'ils calculent, hein, c'est le ROI. Hein. Ils ne vont pas te dire « Ah oui, mais ton projet, il est super sympa, on investit en fermant les yeux. » Non, non, il faut que tu aies des garanties. Si tu as les garanties que tu as des retombées économiques futures, ouais, là, ils investissent. Et pour le coup, bah, c'était une partie de mon ancien boulot. Voilà. Et j'ai eu la chance avec bah, mon ancien PDG, qui est un de mes clients aujourd'hui, bah,
C'est bien ça.
on va dire, puisque c'est un chef d'entreprise, mais qui est jeune, hein, il a 43 ans.
OK.
Et pour le coup, quand je lui ai fait part en fait, de ce projet de faire une reconversion professionnelle, bon, quand tu t'entends bien avec les personnes et que les personnes sont contentes de toi, bah, généralement, tu te dis, bon, bah non, tu voudrais pas rester, en fin de compte, on peut essayer de négocier. Et puis pour le coup, il m'a dit, si c'est pour un projet personnel et professionnel, bah, je te laisse partir. Donc pour le coup, j'ai eu cette chance-là d'avoir un patron, on va dire, compréhensif, et qui me dise, bon, bah voilà, tu peux y aller, et puis réalise ton projet. Ça n'a pas de prix. Il faut le faire tant qu'on peut le faire, en tout cas. Et puis après, bah, on a fait une rupture conventionnelle. Voilà,
Super.
c'est cool, c'est plutôt sympa. Ça se négocie, hein, c'est comme tout. Hein. Je suis pas parti comme ça du jour au lendemain. J'aurais laissé un temps pour trouver un candidat pour me remplacer. On avait fait entre 6 et 9 mois de mémoire. Et après, bon, en parallèle, bah, j'ai commencé à faire les recherches pour postuler BPJEPS.
Que donc tu t'as directement pensé au BPJEPS pour la formation. Tu t'es pas dit que tu allais faire autre chose, tu t'es dit je vais partir sans BPJEPS.
En fait, pour être honnête avec toi, je voulais quelque chose de rapide.
Ok. Ouais, tu voulais commencer rapidement quoi.
Voilà.
Stop, c'était mort
Donc j'ai dit, je vais bientôt avoir 39 ans, ça fait 3 ans, je crois que j'allais sur mes 36 ans quand j'ai décidé que je vais faire un BPJEPS. Donc t'imagines s'il faut que je reparte en STAPS, même une licence, c'est-à-dire 3 ans, là je serai encore, je crois. Tu vois? Donc non, pour le coup, c'était vraiment d'avoir quelque chose de rapide et d'avoir un minimum de base. Bon, comme tout le monde le sait, hein, pour être coach sportif et être rémunéré contre une prestation en France, il faut un diplôme. D'accord? Et donc c'était, entre guillemets, la solution la plus rapide et entre guillemets la plus complète pour avoir un contenu académique pertinent pour pouvoir exercer le métier.
Et t'as fait bébé quelle mention, toi?
Alors, ça peut-être durer un peu plus longtemps. Alors moi au départ j'étais parti que sur la mention haltérophilie parce que quand j'ai fait ce métier je voulais uniquement faire du coaching. J'étais pas forcément parti pour faire des cours collectifs. J'ai eu la chance parce qu'au départ je devais l'autofinancer la formation parce que vous savez que ça coûte plus de 8 000 euros quand même. J'ai eu la chance dans ma promo, parce que je peux faire un peu de pub, du moins je fais pas de la pub, mais bon, moi j'ai fait le Creps, et pour le coup, eux ils ont des places conventionnées au niveau de la région, donc c'est la région qui a pris en charge. Donc ils m'ont dit, vu que c'est pris en charge par la région, est-ce que ça t'intéresse pas de faire les deux mentions? J'ai dit, ok, pourquoi pas. Aujourd'hui, je regrette pas de l'avoir fait, je te dis pas que j'utilise au quotidien, mais de façon hebdomadaire, j'utilise.
Bah tiens, la prochaine fois, c'est un cours de Zumba qu'on va faire avec.
Avec plaisir. D'ailleurs, Flo, on m'a dit que tu te débrouillais bien.
Ouais, ça va, je me démerde bien.
Il n'y a aucun problème dessus. La Zumba, je maîtrise.
Donc pour le coup, alors après, je pense que le fait de prendre une ou deux mentions, que tu prennes Courco ou Haltéromuscu, ça va vraiment dépendre de ton projet professionnel qui est futur. Après maintenant, je pense que pour les personnes, notamment qui sortent d'un bac et qui sont jeunes et qui ne savent pas vraiment trop où aller au niveau de leur projet professionnel, c'est peut-être mieux de prendre les deux mentions pour l'employabilité. Après, ça n'engage que moi, ce que je dis.
Parce que les salles recherchent des coachs entre guillemets avec plus de mentions, avec les deux mentions ou...
Alors, déjà, tu es plus polyvalent. Tu peux faire autant de l'accueil que du plateau. Mais aujourd'hui, il faut pas se cacher, quand tu es en salle de sport, les salles de sport qui te prennent en CDI pour de l'accueil ou du plateau, mais généralement, ça court pas les rues. Ils te prennent surtout pour faire des cours collectifs. Parce que les cours collectifs, il faut savoir aussi que c'est très fatigant selon le volume que tu as sur ta semaine et c'est très usant. Donc voilà, c'est à savoir. Mais bon, après, il y a beaucoup d'aspects qui sont intéressants, notamment sur la gestion de groupe, savoir comment placer les gens. Parce que tu es en physiquement avec les gens. Je veux dire, pour corriger, c'est beaucoup plus facile. Et puis, je pense quand même, en retour d'expérience, c'est bien quand même de faire un peu de courco. Peut-être pas toute ta vie, mais au moins quand tu commences, en faire un petit peu pour voir un peu comment ça se passe. Je pense que c'est très enrichissant pour la carrière future des futurs coachs.
Ok. Et une fois que toi, tu as obtenu le diplôme, Ça s'est passé comment ta recherche de ton premier job en tant que coach sportif?
Alors moi j'avais un projet professionnel qui était déjà bien construit. Moi je voulais faire que du coaching personnel.
Ok.
Voilà, donc j'ai la chance de mon ancien boulot d'avoir déjà un réseau, notamment de cadre exécutif ou cadre dirigeant, donc notamment mon ancien PDG. Donc pour le coup, c'est-à-dire que j'ai pas eu besoin de prospecter plus que ça pour avoir des clients. Voilà. Après, le fait aussi, ce qu'on fait de BPJEPS, forcément, tu as des heures à faire en structure. Et la salle de sport dans laquelle j'avais effectué mes heures de stage. Après, la visibilité, c'est de la visibilité aussi. Hein. C'est-à-dire que les gens voient comment tu te débrouilles, même si tu es stagiaire. Et tu as des gens qui viennent te demander, bon, voilà, c'est quoi tes tarifs par rapport aux objectifs que tu veux. Donc, pour le coup, c'est vrai que j'ai eu cette chance d'avoir déjà un réseau professionnel de mon précédent boulot. Donc, c'est quand même un peu plus facile que d'aller prospecter parce que je vais pas m'en plaindre, hein, mais aujourd'hui, je prospecte pas plus que ça. Et comme tu m'as dit tout à l'heure, moi, les réseaux, c'est pas mon truc. Du moins, c'est pas que c'est pas mon truc, c'est que je trouve que ça prend beaucoup de temps, c'est très chronophage et c'est un vrai métier. Donc, soit tu baignes dedans depuis tout le temps et tu as une appétence pour ça, pour dire, bon, voilà, j'ai passé du temps sur les réseaux à créer du contenu, à aller faire des stories. Moi, je suis plutôt un homme de l'ombre, on va dire ça comme ça. Tu vois, je suis. Après, c'est voilà, je pense que c'est chacun selon son approche. C'est pas que je dis pas c'est bien ou pas. Hein. C'est juste que moi, aujourd'hui, le fait de pas le faire et de pouvoir travailler, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'investisse du temps là-dedans,
Sur les
au jeu?
réseaux, ouais.
Voilà.
Et justement, tu parlais de ce que tu as apporté ton ancien poste dans le fait d'acquérir des premiers clients, mais globalement, dans ton taf de coach sportif au jour le jour, qu'est-ce que ça t'apporte d'autre, justement, ce fait d'avoir bossé en finance auparavant et d'avoir eu un autre job en... C'est quoi les choses que tu as pu apprendre auparavant que tu remets en place
D'accord. Alors, qu'est-ce qui est transposable au niveau des qualités, du moins on va dire des skills. Déjà bien choisir son statut juridique. Voilà, ça c'est le premier truc. Ça c'est important. Je pense que si je peux donner un conseil, c'est déjà d'avoir pas penser qu'à court terme. C'est-à-dire penser sur un statut juridique qui peut être évolutif. Là, quand vous avez fait des postes dessus, hein, je vais pas répéter, mais en plus c'est très bien fait. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui veut se lancer, c'est bien de réfléchir, d'avoir un peu des perspectives, de dire bon voilà, je pense que cette année je vais faire tant de chiffre d'affaires par rapport au chiffre d'affaires que je vais faire sur une année. C'est quoi le statut juridique le plus approprié? Parce que le but aussi c'est de gagner de l'argent, hein, on va pas s'en cacher. Mais aujourd'hui, quand tu te dis bon voilà, j'ai monté une société, mais qu'à la fin tu payes des impôts dessus, tu vas dire en fin de compte, est-ce que ça vaut peut-être pas mieux le coup que je sois salarié? Voilà, c'est juste un calcul à faire et avoir un peu de projection. Et je pense que c'est important, c'est de pas rester sur quelque chose de statique, mais quelque chose plutôt d'évolutif. Je pense que c'est un aspect qu'il faut prendre en compte quand tu te lances. Donc il y avait ça, ce côté-là. Le côté relationnel, ça c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, quand tu fais ce métier, je ne vais pas dire que c'est une vocation, parce qu'on n'est pas dans le corps médical comme un médecin ou un infirmier, tu vois, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, quand tu fais ce métier-là, si tu n'aimes pas les gens, si tu n'aimes pas écouter les gens, je pense que ça, il faut peut-être trouver un autre métier. Voilà. Je pense que quand tu as une personne en face de toi, si tu n'es pas capable d'écouter ses besoins, parce que quand tu as des clients qui sont en face de toi aujourd'hui qui viennent te voir pour te dire, bon voilà, je pense que les gens se rendent pas compte, mais quand quelqu'un va te dire, oui, j'ai besoin de perdre du poids, on peut trouver ça, tout le monde pourrait te dire ça, mais c'est peut-être de comprendre pourquoi cette personne veut perdre du poids. Est-ce que c'est un aspect plutôt sport santé? Est-ce que c'est plutôt un aspect, je suis pas bien dans mon corps, j'ai besoin, j'ai des complexes et. Il faut arriver en fait à cerner. C'est beau, c'est sans écouter les gens, sans savoir un petit peu ce qu'ils ont vécu sur leur passé, ce genre de choses. Je pense que tu peux vite prendre des gens en charge et pas arriver à les aider. Parce que
Parce que t'as pas écouté, t'as pas compris ce qu'il voulait réellement.
Exactement. Je pense que des fois, entre ce que ton client va t'envoyer comme information et ce que toi tu vas percevoir, des fois il y a un décalage. Souvent. C'est pour ça que moi quand je travaille. J'écris par écrit je fais valider par écrit les objectifs. Voilà. Comme ça, au moins, on est d'accord. on part pas sur une programmation qui est totalement en décalage et qu'à la fin on va te dire oui mais bon c'est pas vraiment ça que je voulais. Si c'est ça, on a écrit, tu m'as validé. Et comme si tu faisais un contrat. On va dire, c'est comme j'ai appris ça aussi avec mon ancien boulot. Quand je sais pas, t'as un cahier des charges ou tu signes un contrat pour tant de millions, tu dis ok, tu signes, et puis voilà, t'as des conditions dans ce contrat-là et tu dois les respecter. Bah, c'est la même chose, parce que mine de rien, ces personnes-là, elles ne se rendent pas compte, mais psychologiquement, à valider par écrit, elles s'engagent. Donc déjà, si elles s'engagent dans quelque chose, déjà, elles sont un peu plus volontaires. Parce que tu as beaucoup de personnes qui viennent te voir te dire « oui, j'ai envie », et quand tu creuses un peu, tu vois que les personnes ne sont pas prêtes non plus. Et ça, c'est des aspects à prendre en compte, et que je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des gens physiquement, one-to-one, toutes les personnes sont différentes, tu peux avoir le même objectif, mais tu vas le traiter de façon différente. Et que je pense qu'aujourd'hui, quand tu... c'est encore mon avis, hein, mais faire des programmes standards à distance, ça peut marcher sur un type de personne, mais pas sur tout le monde, parce que tout le monde est différent au niveau de son métabolisme, au niveau de son passé sportif, au niveau de ses blessures auparavant. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça qui font que... bah, c'est important d'écouter, que l'écoute, je pense que c'est même la chose la plus primordiale dans ce boulot.
Voilà. Dans des boulots où tu bosses avec des gens de manière générale, quoi, de dire que... je sais plus dans quel bouquin j'ai vu ça, en gros, il dit ferme ta gueule, écoute. Quoi. C'est le mot, la phrase à retenir, c'est tais-toi, écoute, comprends, et après tu vas pouvoir mieux bosser avec la personne que tu as en face. Quoi.
Oui, parce que tu arrives à cerner, tu arrives à comprendre vraiment les problématiques des personnes. Parce que des fois, ça va plus loin que de dire j'ai mangé, j'ai pris du poids en 4 ans. Quand tu creuses un peu, des fois, ça peut arriver que ça soit un choc émotionnel dû à quelque chose, peut-être une rupture ou un événement de vie qui t'est arrivé et que, à 2 ans, tu étais comme ça et que à cause d'un événement de vie, après, tu prends du poids parce que tu te réfugies dans la nourriture, par exemple. Et ce genre de choses, ça arrive, et si tu n'écoutes pas et que tu prends les choses bêtement à dire ah ok, tu veux perdre du poids, bon allez, va faire du cardio. ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher aussi. Donc voilà, je pense que ouais, l'écoute c'est hyper important dans ce travail.
Ok, donc ça, le choix entre guillemets les bons choix pour ce qui est juridique, l'écoute, qu'est-ce que t'as apporté d'autre? T'as apporté d'autres choses?
Après, je vais dire au quotidien, la gestion financière en globalité, hein, je ne vais pas te le cacher. Je pense que de mon ancien métier, c'est-à-dire que j'ai des automatismes en fait, qui me disent, cette dépense-là, je vais pouvoir soit la passer en dépense ou en investissement. C'est des choses que, quand tu ne connais pas, tu te dis, quand tu ne connais pas comment ça fonctionne un compte de résultat et un bilan ou une IAS fiscale, tu te dis, je passe tout en charge, vas-y. Petit matériel et compagnie. Non, des fois, c'est bien, du moins, ça m'apporte en fait au quotidien d'avoir ce background, de dire, cette dépense-là, je peux la passer ici, ça, c'est plutôt de l'investissement, parce que je sais que dans le futur, ça va apporter quelque chose. Donc c'est plus facile, on va dire, au niveau des mécanismes financiers et faire en sorte de maximiser ton bénéfice. Voilà.
Et du coup, quand tu as commencé, tu as joué d'abord sur ton réseau pour avoir tes premiers clients. Quand tu as commencé, comment est-ce que tu as fixé ton prix, ton tarif de coaching? Comment est-ce que ça s'est passé? Parce qu'on sait que les coachs, quand ils débutent généralement, ils se mettent des prix, ils vont voir en fait sur des plateformes de mise en relation ou ce que font les autres coachs, et lui il est à 30 balles de l'heure, moi je vais mettre à 25 balles de l'heure. Alors que peut-être que le mec il a regardé à 30 balles de l'heure, c'est déjà bien en dessous de ce qu'il peut facturer. Comment est-ce que toi t'as mis en place tes premiers prix?
Avant de parler de comment j'ai fixé mes prix, je pense qu'aujourd'hui, nous, en tant que coach sportif, et c'est bien que les gens, les coachs se rendent compte, c'est que nous avons un impact sur la vie des gens. Ouais. On les aide. Donc, comme tu as fait ton poste, ça vaut de l'or. Ouais. C'est ça que tu avais marqué dans ton poste. Hein. Pour le coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, on aide les gens. Je ne vais pas dire qu'on est comme des médecins, mais tu vois, tu prescris une programmation à quelqu'un pour qu'il aille mieux, pour qu'il se sente mieux dans sa vie. Autant physiquement que psychologiquement. Donc aujourd'hui, quand tu me dis des prix à 25 ou 30 euros, j'ai pas de mots. Voilà, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, vu que moi, dans mon réseau, c'est beaucoup de cadres dirigeants et cadres exécutifs, il faut savoir que ces personnes-là, quand le prix est trop bas, ils estiment qu'il y a un hic.
Ouais, que c'est pas de la quali, que c'est...
Exactement, ça veut dire qu'aujourd'hui, selon comment tu vas te positionner par rapport à ta cible, il faut te dire, les personnes que tu cibles, si c'est des personnes qui ont l'habitude de... déjà qui ont un mindset de dire, bon voilà, payer quelqu'un pour faire du sport, déjà c'est qu'ils ont déjà un certain niveau de revenu, donc ne pas faire un revenu trop bas, voilà. Donc moi c'est comme ça que je réfléchis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'une personne, je te prends un exemple tout bête, hein, va acheter un iPhone 13 Pro Max, parce qu'il est sorti il n'y a pas longtemps, hein. J'ai pas d'accent chez Apple, et je n'ai pas d'iPhone, voilà. Je crois que le plus cher à un tera, il doit être à peut-être presque 1700 euros. Bah, qu'est-ce qui va faire que tu achètes 1700 euros ou tu achètes un Xiaomi à 300 balles? Voilà, ou peut-être que tu vends du rêve, plus de la c'est une prestation. Parce que pour moi, aujourd'hui, quand tu fais du coaching, c'est une vraie prestation. Et que quand tu peux te permettre de facturer un tarif élevé, ça veut dire que c'est même plus une prestation, c'est une expérience que tu fournis en fait à ton client. C'est qu'aujourd'hui, tu vas le prendre en charge, ça va être personnalisé, et c'est pas un programme standard que tu vas trouver sur Internet et il va dire oui, perdez 10 kilos en 4 semaines. Voilà, après je te dis pas c'est bien ou pas. Après ça dépend comment tu te positionnes, mais aujourd'hui, moi mon principe c'est que les personnes que je cible, si tu fais un prix trop bas, ils vont te dire clairement il y a quelque chose qui va pas, c'est pas qualitatif ou c'est un truc bateau que tout le monde peut faire. Voilà, donc moi c'est comme ça que j'ai fixé mes prix.
Okay. Mais t'avais fixé combien au début?
On est en France, on parle pas d'argent.
on va arrêter là le podcast, bonne journée à tous.
on va dire que c'était entre 150 et 200 euros de l'heure, voilà.
Okay. Ça marche. Okay.
C'est bon, ça marche comme ça?
Ouais, ça marche. Bien. On aime bien les fourchettes. Et du coup, parce qu'on allait parler de cible et de niche juste après, mais finalement, toi, la niche que tu as choisie, entre guillemets, est-ce que tu es vraiment resté sur les cadres sup et les dirigeants, ou bien en fait, tu es rentré là-dedans et aujourd'hui tu prends des clients, que ce soit des cadres sup ou peu importe?
Alors aujourd'hui, je reste dedans. Mais je prends d'autres personnes aussi,
okay.
Et qui n'ont pas du tout à voir et pas du tout les mêmes profils. Notamment, je te dis, tu es venu dans la salle de sport où tu es venu t'entraîner. Et j'ai beaucoup de personnes de mon entourage aussi. C'est vu que je suis dans l'associatif, je pousse des personnes handicapées. Tu sais, je fais des courses avec les personnes handicapées, je t'en avais parlé. J'ai récupéré pas mal de personnes sur de la préparation de course à pied, préparation de marathon dans mon entourage au niveau du monde associatif et aussi non au niveau de la salle aussi. Mais là en ce moment je me rends compte depuis la réouverture des salles depuis juin, j'ai pas mal de personnes là, j'ai 2-3 profils où c'est vraiment sur des pertes de poids mais longues. Tu sais, un petit peu comme Chris Powell.
Okay.
Voilà, c'est vraiment c'est vraiment plutôt sur un aspect sport santé, c'est-à-dire que les personnes viennent te voir, te disent bon voilà, là j'ai vraiment trop de poids et il faut vraiment que je perde du poids parce que je suis jeune et que c'est pas normal. Donc je suis pas resté fidèle à ma cible de départ, mais je travaille quand même avec d'autres profils.
Okay.
et c'est intéressant aussi, hein, parce que c'est bien de voir un peu de tout. Je pense que se diversifier et rester que sur une cible, c'est hyper enrichissant au niveau de tes compétences futures. Donc pourquoi ? Parce que généralement, les personnes que tu vas voir qui sont cadres dirigeants ou cadres sup, c'est des personnes qui, dans leur vie au quotidien, ils savent se mettre des objectifs, se donner les moyens pour les atteindre. C'est-à-dire qu'ils sont volontaires dès le départ, et eux, ils savent déjà faire ça dans leur milieu professionnel, dans leur vie personnelle. Donc tu vois, c'est des compétences qui sont transposables et qu'ils arrivent à retransposer au quotidien. Quand tu prends une personne qui n'a jamais fait de sport de sa vie, qui est en surpoids, des fois même en obésité morbide, on va dire, ou sévère, tu vois, tu lui dis, bon, vas-y, un exercice tout bête, hein, essaye de t'asseoir et faire un squat. Bah, quand tu as une personne qui, malheureusement, qui a de la graisse viscérale au niveau de l'abdomen, qui a un gros ventre, c'est pas aussi facile qu'une personne qui a l'habitude de faire du sport et qui a, on va dire, peut-être à 20%, 20% de masse grasse dans son corps. Tu vois, c'est mécaniquement, physiquement, tu n'as pas les mêmes capacités. Donc, c'est très intéressant à ce niveau-là. Parce que tu dis, bon, voilà, bah, tu es obligé de te creuser la tête, de dire, bon, bah, ce geste-là, il ne peut pas le faire. Quel geste peut faire en option pour qu'il puisse travailler les mêmes chaînes musculaires, par exemple. Ou dire, tu peux tomber aussi sur des profils où ils vont avoir des pathologies avec, je sais pas moi, des. Ils ont eu des pincements intervertébraux, par exemple, ou des gestes que tu peux pas faire, et puis dire bon, comment tu fais pour gérer tout ça. Mais ça, c'est hyper intéressant à ce niveau-là, parce que ça te permet d'être plus polyvalent, et te dire, bah, avec l'expérience, ce type de profil-là, physiquement, je sais que je vais retrouver peut-être les mêmes problématiques, donc je vais pouvoir, faire en sorte de travailler différemment, et avoir une approche différente. Donc... à ce niveau-là, c'est intéressant, je pense, que de ne pas rester forcément vraiment sur sa cible et vraiment trouver tout type de profil.
Mais ça c'était venu comment ? C'est parce que tu te disais, c'est parce qu'au début, tu te concentrais sur ta cible et qu'on est venu te voir et que tu as accepté, ou c'est toi qui t'es dit à un moment donné, bah, j'ai ce type de client, je vais aller voir un peu, je vais aller m'ouvrir à d'autres types de personnes, ou c'est eux qui sont venus à toi et tu te dis, bon, bah, let's go, quoi.
C'est des personnes qui sont venues vers moi et j'ai dit ok. Parce que moi c'est ma manière de travailler, c'est-à-dire qu'avant de prendre une personne en charge, je la prends en entretien, entre guillemets, pendant 30 minutes, à discuter, de savoir un peu c'est quoi le passé, sportif, perso, c'est quoi la plus grande chose que tu as faite dans ta vie, des questions tout bêtes mais qui nous en tant que coach te permet en fait de jauger et de savoir, on va dire, si la personne est volontaire, si elle est prête à se dépasser, et ça te permet aussi de voir si elle est prête aussi, parce que ça c'est hyper important, je pense que c'est les personnes qui se sentent dans des prises en charge de coaching, si vous n'êtes pas prête, épargnez votre argent, voilà, pensez-y, quand vous êtes prêt, allez-y, ça sert à rien de jeter son argent, et moi je suis pas là pour prendre l'argent des gens, c'est-à-dire que moi je consacre de mon temps, même si c'est mon métier, à aider les gens. Donc autant consacrer ce temps à des personnes qui sont volontaires et qui sont prêtes à y aller. Parce que après, pareil, hein, quand tu discutes avec les gens, t'as pas la même manière de coacher. Hein. Tu vois beaucoup de coachs qui sont sur du coaching par la frustration, à dire « Ouais, non, mais ce que tu fais, c'est pas bien. » Non. Je veux dire, on est tous différents et on n'a pas des sportifs de haut niveau en face de nous. Hein. C'est pas ça le plus grand, en tout cas, moi, des coachs que je connais. J'en ai peut-être un ou deux dans mon entourage qui coachent des sportifs de haut niveau, mais le reste, c'est des gens lambda, hein, c'est des gens qu'on peut croiser ici à la station F ou dans le métro. Hein. Donc, c'est-à-dire que quand tu vas coacher la personne, si tu la frustres, tu la perds. D'accord ? Donc, y a aussi cet aspect-là, en fait, très psychologique, à discuter avec les gens et encore une fois, écouter, essayer de comprendre, de cerner un peu la personne pour voir y aller ou pas. Donc, moi, je me permets de le faire. Et si la personne n'est pas prête, je lui dis, voilà, clairement, t'es pas prête. Reviens, réfléchis-y bien. Et ensuite, reviens et quand t'es prête, on y va. Voilà.
Du coup, ça t'arrive de refuser des clients ?
Ça m'est arrivé.
Ok. C'était pareil parce qu'ils n'en voulaient pas ou c'était...
Alors, il y a...
Qu'est-ce qui fait que toi, tu refuses des clients ?
S'il n'y a pas de feeling.
Ok.
C'est très important, hein, parce que moi qui travaille dans une salle de sport, on est... t'y es venu, t'as vu, il y a une très bonne ambiance. Tous les coachs, mes collègues, on s'entend tous bien. Et sauf que moi, quand une personne vient me voir, elle me dit, bon, voilà, vous faites des coachings. Oui, après, je suis pas le seul à faire des coachings. Discutez aux alentours, discute avec les différentes personnes. Et moi, par exemple, moi, je suis pas du tout sur du coaching au niveau du body. Alors, moi, c'est à milieu de mon univers. Hein. Mais vraiment, je te dis concrètement, quand des gens... Je suis même pas sûr qu'il y ait des gens qui soient venus me voir pour du body, mais si quelqu'un vient me voir pour du body, je vais rerouter sur mes collègues. Parce que voilà, parce que j'ai pas forcément d'appétence là-dessus.
Quand tu dis body, tu parles de bodybuilding ?
Bodybuilding, ouais. Sur de la prépa physique, sur des compètes, IFBB et compagnie. Mais pour le coup, je préfère donner à mon collègue parce que c'est pas mon truc. Ça m'intéresse pas plus que ça. Et maintenant, ouais, le feeling, c'est hyper important. Je pense que c'est comme quand tu. Toi, t'es chef d'entreprise. Demain, tu dois travailler. Tu bon, voilà, on va faire sur quelque chose de concret. T'es chef d'entreprise, demain, tu dois faire des recrutements. Tu vas prendre quelqu'un d'entretien, un CV équivalent. Tu vas te dire, bon, voilà, j'ai des compétences, ok. Ils ont l'air bons tous les deux. Tu essaies de faire peser dans la balance. Peut-être le feeling que t'as avec la personne, dit, bon, elle est peut-être dans le même mindset, peut-être la même génération, ou j'ai trouvé plus agréable, plus ouvert, ce genre de choses. Et moi, ce qui peut m'arriver de refuser des clients, c'est ça, c'est pas de feeling. Pas de feeling, et puis je préfère dire, bon, voilà, j'aime bien les gens qu'on voit. On va dire ça comme ça.
Et tu leur dis quoi quand il n'y a pas de feeling? Je leur dis, tu trouves, qu'est-ce que tu leur dis en les refusant? Il n'y a pas de feeling entre nous?
Non, je suis plutôt brut de décrofrage, mais okay. pas comme ça. Mais bon, je vais. Bon, bah, laisse-moi tes coordonnées, je vais y réfléchir. Et parfois, ça peut m'arriver de ne plus avoir de créneau, par exemple.
Ah, t'es full, quoi, t'es complet.
Exactement, là, ça va être compliqué, mais par contre. Je sais que mon collègue, je crois, il voudra bien.
Ouais, il y a encore de la place.
Ouais. Non, après, c'est important parce que tu vois, on n'est pas là non plus pour frustrer les gens, tu vois, je suis pas là non plus pour refuser tout le monde, j'ai aucune prétention de dire je refuse les gens, parce que voilà, c'est juste que voilà, c'est des fois t'as pas de feeling avec les gens, et tu sais très bien que tu vas passer des tu passes entre 2h30 et 4h dans ta semaine avec eux. Faut quand même que t'aies un peu de matière à discuter d'autres choses, parce qu'il faut savoir que les gens qui viennent en coaching, au-delà de s'entraîner, ils viennent aussi passer pour passer un bon moment. Tu vois, si t'es là et que t'as rien à dire à part dire « Ok, bah, il te reste 10 répétitions, tu comptes 10, 9, 8, ah, il t'en reste encore 3. Ok, 2 minutes de repos. » Et que pendant ces 2 minutes de repos, il se passe rien, et le temps de repos qu'il y a sur ta séance, si tu passes 30 minutes sans rien dire, voilà. Je vais m'être payé pour faire de la présence, mais bon, voilà quoi, c'est pas... Moi, c'est pas trop mon truc. Voilà.
Tu parlais de la cible cadre sub dirigeant, mais aussi t'avais ce côté-là handisport. C'est toi qui as décidé de te mettre dedans, ou ça, encore une fois, ça t'est tombé dessus
Ça m'est tombé dessus par hasard dans la salle de sport. C'est une personne en fait que je voyais au quotidien, en fait un adhérent, qui m'avait dit parce qu'en fait à la base, moi je faisais beaucoup de courses à pied. Je faisais tout ce qui était Spartan Race et compagnie. Avant de rentrer en BPJEPS, donc il savait que je courais un peu, et j'avais préparé en fait l'année du BPJEPS une équipe de 12 personnes pour faire le Mud Day. En fait, c'est comme ça que c'est arrivé, et il y a une des personnes qui était de la salle qui m'a dit, bon voilà, moi je fais de l'handisport, et il me dit, ouais, est-ce que ça t'intéresserait de courir? J'ai dit, bah, j'ai jamais fait, pourquoi pas, et j'ai commencé par faire la No Finish Line.
C'est quoi?
Alors la No Finish Line, c'est une course qui se tient tous les ans, qui dure du lundi au dimanche, et tu dois courir une boucle d'un kilomètre sous le champ de Mars. C'est juste une boucle, hein. Tu tournes un kilomètre, et plus tu fais des kilomètres, et plus ça fait de l'argent.
Ok, d'accord.
Voilà, et quand tu fais un tour, ça fait... Non, à chaque kilomètre, ça fait 1 €.
Ok, d'accord.
Voilà, et donc il m'avait dit, ça t'intéresse? Je dis, bah vas-y, on va y aller. Et du coup, je l'ai fait de nuit. J'ai couru, je fais plus de 20h jusqu'à 8h du mat. J'ai fait 53 kilomètres. Et franchement, c'était dur. C'est dur de courir la nuit, il n'y a ta personne en plus. J'ai fait ça un samedi soir, il n'y avait personne, parce que généralement les gens font ça, ils sortent du boulot, c'est vraiment un champ de Mars, donc tu vois, c'est vraiment une boucle, tu fais que tourner, et le soir, bah, t'as toujours les mêmes qui font, t'as des personnes qui font de l'ultra-trail, genre sur la semaine, ils font genre 400 ou 500 km, je crois. Ils tournent, bah, il faut que tu aies des écouteurs ou soit un pote. Moi, j'avais des écouteurs. Voilà, quand il était 8h du match, j'ai dit non, il faut que je rentre chez moi. Mais pour le coup, c'était dur. Et donc, je suis rentré dans l'association par ici. Donc, l'association s'appelle Artistes Sportifs de Cœur. Voilà. Okay. C'est le seul truc que je ferai comme pub, parce que je pense que c'est une très belle association. Donc, en fait, c'est une association qui regroupe beaucoup d'artistes. Pas mal de gens qui font du stand-up. Donc, on a une partie course à pied, une partie foot aussi. C'est des anciens nationaux de foot qui viennent dans l'association. Et pour le coup, bah, nous, sur la course à pied, voilà, on a recommencé depuis 3 semaines parce que les courses ont recommencé. Donc, toutes les semaines, on court. Donc, on a fait là les 2 derniers week-ends 2 fois 10 km. Ils ont fait l'Oxytrail 20 km dimanche.
Mais quand tu cours, c'est que tu es tout.
Je cours et on pousse des personnes, okay. On pousse des personnes en fauteuil. Okay. Voilà. Et là, on fait l'Odyssée pas dimanche.
Ok. Et du coup, c'est du coup, t'es rentré là-dedans et c'est pas tu l'avais pas forcément choisi, mais c'est un truc que tu kiffes faire. J'y même, tu le fais encore.
Alors après, j'ai beaucoup baigné dans le monde associatif de par mes parents.
Ok.
Voilà, je pense que ça joue dans la balance. Et puis, c'est hyper. Bon, après, moi, je trouve ça important en fait de donner un peu de ta personne. Les personnes que tu pousses, qu'on pousse là sur l'association, c'est des personnes qui sont soit qui sont beaucoup handicapées moteurs. D'accord? Ils restent toute leur journée dans leur. Comment ça s'appelle? Résidence là pour personnes handicapées dans les APF. Et pour le coup, bah, tu vois, tu te dis, tu donnes un peu de. Même si c'est que 2 heures, ils sortent, ils voient du monde, ils sont à l'air libre, ils courent avec nous, ils discutent, ça sort un peu de leur quotidien. Et puis tu donnes un peu de ta personne pour des personnes qui peuvent pas le faire. Et puis ça n'a pas de prix. Et puis quand tu passes une ligne d'arrivée sur une course officielle. Que les gens te voient. Au-delà de ça, tu sais, ils nous remercient, dire oui, c'est bien. En fait, nous, on le fait. Je le prends pas personnellement parce que je le fais pour la personne que je pousse. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je le fais avant tout pour ça. Et je pense que si je peux donner que ça, déjà, moi, que ça, c'est déjà bien. Et c'est pour ça que je suis tombé là-dedans. Et pour le coup, c'était pas quelque chose de calculé. Et puis voilà, tu vois, de fil en aiguille, tu rencontres des gens, bouche à oreille, et puis après bah tu vois tu te mets sur un événement, est-ce que ça t'intéresserait pas d'en faire un deuxième, et puis bah après tu rentres dans l'assaut, et puis bah après bah de façon récurrente tu cours.
Est-ce que t'as des personnes handicapées que t'as en coaching perso? Est-ce que ça se fait? Est-ce que toi tu le fais?
Alors moi je le fais pas.
Ok.
J'ai pas eu d'occasion parce que les personnes qu'on pousse, ils sont des handicapés, des handicaps moteurs avancés quand même. Voilà. Moi, ça m'est pas arrivé encore de le faire. Après, je pense que c'est un vrai métier. C'est-à-dire que même si demain l'occasion se présente pour moi, je réfléchirai peut-être de savoir est-ce que j'ai les compétences pour. Parce que là, c'est comme tout à l'heure, je disais une personne entre guillemets normale, une personne qui a une obésité sévère. Déjà, c'est compliqué de la gérer. Tu peux pas la gérer de la même manière. Alors là, avec un handicap moteur. C'est pas évident. Donc je pense que si ça devait se présenter, je pense que je réfléchirais d'abord, savoir est-ce que j'ai les capacités pour le faire, et si jamais je les ai pas, bah, de rediriger vers quelqu'un de compétent.
D'accord. Toi aujourd'hui, maintenant qu'on a parlé un peu de la cible et du type de client que tu as, c'est quoi les différents types de coaching que tu proposes?
Ok. Alors, au départ, avant de connaître Jim Key, dédicace. Je faisais beaucoup de coaching en physique directement, d'accord, en individuel. Après, bah, je cherche un outil pour pouvoir développer cet aspect un peu plus à distance, d'accord, ou faire des coachings hybrides.
Mais
Donc.
comment t'en es venu à te dire je vais me lancer en ligne? Ça a été quoi la chose qui t'a dit? Parce qu'aujourd'hui, donc, tu proposes du coaching en physique. Et à quel moment tu t'es dit, et surtout pourquoi j'ai envie de passer à du coaching en ligne?
Alors, il y a 2 raisons pour ça. La première, c'est que quand tu as une cible sur laquelle tu vas rester, notamment les cadres dirigeants, souvent c'est tôt le matin. Tôt le matin, les créneaux, les plages horaires, elles ne sont pas extensibles. C'est-à-dire qu'une personne va peut-être venir à 6h du matin, entre 6h et 8h, ou voire 9h grand maximum, le temps qu'il termine sa séance, qu'il prenne sa douche et qu'il aille bosser. Donc, en gros, tu places trois clients. C'est ce que je veux dire. Donc, un, c'est le manque de temps. Qui m'a dit, bon, je vais peut-être faire en sorte de capter un peu plus de clients et de proposer quelque chose d'hybride, de dire on se voit qu'une seule fois par semaine, pas 3 fois, et puis de 2 fois par semaine ou une fois par semaine, tu fais ton programme de ton côté. Et puis, la deuxième raison, bah, c'était le fait bah, ouais, de pouvoir proposer en fait mes prestations de coaching à des personnes peut-être qui n'ont pas forcément les moyens de payer un coaching individuel pendant un mois entier. Voilà. C'est aussi répondre en fait à un besoin, parce que mine de rien, selon les prix que tu proposes, ça a quand même un coût, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est sûr que si tu proposes des coachings à 25 euros de l'heure, des clients tu en as beaucoup. Alors il faut, tu vas peut-être travailler de 7 heures du mat jusqu'à 22 heures. Voilà. Après c'est chacun fait comme il veut, mais aujourd'hui, c'est d'être capable de proposer en fait de répondre à un besoin de personnes qui veulent travailler avec toi, dire bon voilà. En 100% en individuel, c'est pas possible financièrement pour toi. J'ai cette solution-là. Est-ce que ça peut te convenir? Et souvent, ça peut convenir parce qu'ils sont contents, parce que ils savent quoi faire 2 fois par semaine en salle de sport. Mais quand même, tu es quand même là pour les prendre en charge une fois par semaine, et t'es avec eux et tu les pousses, parce que l'intensité non plus elle est pas la même hein, entre ce que tu fais sur l'application quand tu fais ton programme en salle et quand t'as quelqu'un derrière tes fesses, c'est pas la même chose. Donc pour le coup c'était la deuxième raison.
Surtout qu'avec toi ils peuvent pas tricher, tu les équipes correctement.
Tu te rappelles?
Je m'en rappelle très bien. Je m'en rappelle très très bien.
Oui, parce que on en rigole, mais on a fait un training ensemble avec Momo et Amandine. D'ailleurs Flo, on t'attend toujours. Je le répète encore une fois.
Il l'a dit sur le podcast. Ouais.
Ah, je serai là le prochain.
Et pour le coup, nous, on travaille avec des cartes de fréquence mètres. C'est-à-dire que nous, on aime bien traquer l'effort des gens, la dépense énergétique. Et c'est surtout au-delà du fait que ça va te donner un suivi et un rapport en fin de séance, il faut voir aussi que parfois, visuellement, les gens peuvent te dire qu'ils n'en peuvent plus. Mais au niveau de leur fréquence cardiaque, tu vas te dire « Ah ben en fait, non, tu peux envoyer encore un peu plus. » Tu vois. Ça aide aussi à ça, d'avoir entre guillemets, c'est un peu un mouchard en fait, en gros, hein, c'est un mouchard, mais bon, et ça te permet aussi
c'est
de
utile,
ça.
Hein, parce que tu regardes, je dis putain, je suis au max, moi, là.
C'est ça, je pense que tu peux envoyer, et à contrario, ça peut aussi dire des gens qui vont pas forcément te montrer visuellement qu'ils sont au bout de leur vie, et tu vois, ils sont dans le rouge, ils sont à 100% de leur fréquence cardiaque max, et là tu dis, ouais, calme-toi, on va prendre un peu plus de repos, on fait attention, et voilà, parce que. Notre métier aujourd'hui c'est éducateur sportif et quand même les gens quand ils nous payent c'est ils mettent entre tes mains leur intégrité physique. T'es pas là pour blesser les gens, t'es là pour prendre soin des gens. Donc c'est un outil comme qui existe aujourd'hui. Nous dans notre entourage il y a pas mal de coachs qui l'utilisent, mais parce que c'est généraliste, je ne sais pas, mais en tout cas c'est des outils qui sont à disposition et qui te permettent d'optimiser ton entraînement et de proposer une prestation entre guillemets plus. Ça peut être aussi des arguments. De dire pourquoi toi t'es plus cher. Moi j'ai fait ça. T'as du suivi. À chaque fois je sais exactement. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, tu le remarques et c'est là que je reviens, je fais une passerelle avec les cours collectifs. C'est que quand tu vois les. Quand une personne vient dans un cours collectif, la première chose qu'elle veut savoir, c'est combien j'ai brûlé. Voilà. Aujourd'hui, les gens qui viennent faire du sport, en salle de sport, ils ont besoin de quantifier en fait leur effort. Pourquoi ? Parce que ça va être une source de motivation de dire d'une semaine sur l'autre, j'ai brûlé un peu plus. La prochaine fois, je vais essayer de brûler encore un peu plus. Tu vois ? Donc, pour le coup, c'est bien de proposer ça, je pense, en coaching. Et ça peut être un argument supplémentaire pour dire... voilà ce que moi je propose, voir d'autres concurrents, et après on en discute, et puis voilà.
Ok. Du coup, ça te pousse à faire du... Déjà, je pense que tu commences, tu fais du hybride, oui. Où tu prends les clients une à deux fois par semaine, et tout le reste, c'est à distance. Est-ce que tu as des clients qui sont 100% à distance, que tu ne vas pas en salle de sport?
Oui, là, ça m'arrive, c'est pas la grande majorité, mais j'en ai.
Ok. Et comment tu les as eu ces clients-là, vu que t'es pas sur les réseaux, vu que tu fais pas ça?
Le bouche à oreille.
Ok.
Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux.
Ouais, c'est vrai, c'est ce qu'il y a de mieux, le bouche à oreille.
Après, je pense que quand que les gens sont contents de ce que t'as fait, et que des personnes que t'as coachées ont des résultats, c'est ta meilleure pub. C'est véridique, hein. C'est-à-dire que une personne que tu as pris en charge dans son entourage, dire ouh voilà, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai pris un coach, on a fait ça à distance, il a une application. Bon, déjà le fait d'avoir une application, c'est bien. Déjà, un, c'est écologique, même s'il y a des serveurs sous ça, on va dire qu'il n'y a plus de papier. Voilà, d'accord, on pourra en discuter, mais on va
les
dire
serveurs
que...
derrière crament quand même.
Voilà, exactement. Donc outre cette partie là, il n'y a plus de papier, et c'est quelque chose de dynamique. D'accord, tu as tout intégré dans l'application, tu as le timer, tu as différents types de programmes, tu peux travailler en EMOM, en Tabata, tu peux faire des bicep, tu peux faire des supersets, c'est très complet au niveau de la solution. Et puis quand les gens voient ça, ils disent c'est vachement bien. Parce que t'es pas là en train de te dire sur une image, alors attends, c'est quel exercice qu'il faut que je fasse, sur quelle machine. Et je pense que si t'es à la salle et que tu vas demander à un coach, autant payer un coach pour qu'il explique quoi faire, quoi. Après c'est mon avis, mais aujourd'hui je pense que le bouche à oreille, quand tu t'occupes bien des gens, il n'y a pas meilleure pub. C'est comme quand tu vas dans une salle de sport, je pense que la première personne que tu as devant toi, c'est un coach. Si le coach il est bon, les premiers commerciaux d'une salle de sport, c'est les coachs. Et les premiers commerciaux de pour moi, c'est mes clients. Voilà, c'est...
Mais du coup, qu'est-ce que tu fais pour pousser le bouche-oreille? Parce qu'on a sorti une vidéo, je sais pas si elle est sortie ou pas d'ailleurs.
Je crois que je l'ai vu passer, je l'ai pas regardé, mais je crois que je l'ai vu passer.
Je sais pas si on... je pense qu'elle a dû sortir. On parlait justement du bouche-à-oreille et sur le fait que les coachs, en fait... on sait que c'est un levier, je suis en train de m'affaler sur mon siège, c'est horrible. C'est un levier incroyable pour avoir des nouveaux clients et pourtant en fait c'est pas utilisé. Ils veulent, la plupart des coachs, ils pensent que ça va se faire en automatique. En gros, bah le bouche à oreille, c'est mon client qui a parlé de lui-même à d'autres clients, ce qui peut arriver, mais toujours essayer de les aider à faire parler de toi. Par exemple, nous, ce qu'on fait sur Gymkey, c'est qu'on met l'image de fin de séance, etc., pour que ça pousse au partage. Tiens, regarde la séance que j'ai faite, c'est mon coach qui m'a balancé, etc. Mais toi, en tant que coach, c'est quoi les choses que tu as mis en place pour pousser le bouche à oreille et faire en sorte que tes clients parlent de toi à d'autres clients?
Tu me poses une colle, là. J'étais pas prêt, là. Tu m'avais pas envoyé cette question. Rien de particulier, en vrai. Rien de particulier, à part les résultats des personnes que je prends en charge. Après, maintenant, je t'en avais parlé, mais là, j'ai développé entre guillemets, une marque et un nom pour le coaching. Donc déjà, merci pour tes podcasts, hein, pour tout ce qui est Email Pro et compagnie, ça m'a bien aidé. Pour, entre guillemets, professionnaliser en fait un peu ton offre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que quand je réponds à une offre ou une demande pour un coaching et qu'il y a le nom de ma marque avec @lenomdemamarque.com, c'est toujours plus pro que Eri.mon nom de famille ou AOL ou Altice ou je ne sais quoi, tu vois.
Orange.com.
Voilà. Non, pour le coup, c'est plein de petites choses qui font que vraiment tu te professionnalises et que les personnes te disent, bon, voilà, même sur une carte, une carte de visite, la manière dont elle a été travaillée par rapport à ton logo, c'est un gage en fait de dire, bon, voilà, ça a l'air sérieux, quoi. Avec du contenu, avec du support aussi, parce que le coaching, c'est pas que prendre en charge les gens et faire. Aujourd'hui, c'est comme je disais tout à l'heure, ton boulot, c'est éducateur sportif. Moi aujourd'hui, avec mes clients, ce que je leur dis, hein, moi, c'est quand vous payez un coach, c'est de l'investissement sur votre santé future. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des connaissances. Je te dis pas que je connais tout, mais en tout cas, ce que je vais te faire, je sais pourquoi je le fais et que je t'explique pourquoi tu vas le faire. Et en quoi ça va t'aider? Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis pas là pour tenir la main des gens toute leur vie. Sinon, ça voudrait dire que je suis un mauvais coach. C'est sur un même objectif, je parle. Hein. C'est-à-dire que tu prends en charge des gens, on définit un objectif ou des objectifs, je te donne les moyens pour y arriver, tu les atteins, tu es autonome. Moi, je pousse à l'autonomie au maximum mes clients. Moi, je veux pas les garder, sauf si c'est des transformations extrêmes, où là, ça prend un peu plus de temps. Mais aujourd'hui, si tu me dis, pour courir un marathon, je te prépare pendant un an... Si tu pars de zéro, je pourrais te dire oui, mais si tu as couru déjà depuis un moment, si j'ai maintenant pour te préparer, je me pose des questions, je change de métier. Voilà, clairement.
Et sur cette partie, parce que tu vois, ce qu'on voit généralement, c'est que même nous, en fait, on l'oppose dans nos vidéos, on a remarqué que récemment, c'était pas non plus la meilleure stat, parce qu'en fait, on met toujours les réseaux sociaux à côté du coaching en ligne. Alors que en fait, les réseaux peuvent faire en sorte en fait, que tu aies plus de clients en physique. Tu vois, il y a toute cette partie-là qu'on oublie. Tu parlais de carte de visite, mais c'est vrai que tu vois, ça, c'est des choses que nous, on regrette de ne pas encore avoir fait. Et on va mettre en place dans une prochaine vidéo, mais de parler vraiment de comment se marketer. Parce que sur le début, on s'est juste positionné sur cette partie coach sportif en ligne. Alors que 95% des coachs sportifs en France, en fait, ils font pas de en ligne. Ils sont quasiment tous sur du physique. Et ce que tu dis là, c'est ultra intéressant parce que tu parles justement du marketing sur la partie physique, la carte de visite, comment est-ce que justement tu t'accueilles des gens en salle de sport. Et après, bon, il y a toute la partie réseaux sociaux que tu fais pas encore, mais que tu vas faire dans les prochains mois. ça, je peux le garantir sur le podcast.
J'y réfléchis.
Mais parce que c'est quelque chose qui peut toi t'apporter des clients en physique. En fait, ça apporte les deux, vu que toi tu fais du coaching physique, du coaching hybride, et du coaching en ligne, bah c'est les gens qui tombent sur Eri, sur Insta ou bien sur TikTok. TikTok, faut pas l'oublier ça. sur TikTok, bah ils vont aller regarder s'il y a un site web, un site web, s'il y a un Insta, un Insta, voir ok bah en fait ils coachent au fin fond d'un patelard
aussi.
Tu vois, donc ils pourront se dire moi je vais aller booker mon heure avec lui. Mais juste pour revenir, parce que c'est intéressant d'avoir les feedbacks des coachs par rapport à ça. Toi aujourd'hui, c'est quoi qui fait que tu t'es pas encore mis sur les réseaux? Parce que j'avais posé la même question à Charlie, qui lui, bon, il y a un minimum, mais lui, il y va et juste il tamponne ses photos avant-après. Il n'y a rien d'autre. Tu vois, sur son Instagram, il n'y a que des photos avant-après. C'est quoi, toi, qui fait que tu l'utilises pas encore?
Alors, pourquoi j'utilise pas dans mon activité? Alors, je vais te répondre d'une manière de mon ancien boulot. C'est que le temps que je vais passer dessus et les retombées économiques futures que je peux avoir, je pense que le rapport, en fait, il est pas assez intéressant pour moi. Alors, déjà, pour créer du contenu, faut être hyper créatif. Alors, moi, je fais de la finance, hein. J'ai un esprit cartésien, moi, essayer de faire quelque chose de créatif, c'est pas mon métier. J'essaie, mais j'arrive pas. Voilà, moi, je suis honnête, hein. C'est un vrai métier. Et c'est chronophage, ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte, peut-être quand ils sont dedans, mais quand tu vois le temps que tu passes sur les applis. Alors déjà, rien que pour toi, à visualiser des choses, tu passes du temps. Alors t'imagines si toi, tu dois te creuser la tête, à créer du contenu, de savoir pourquoi... le mettre, qu'est-ce que tu veux transmettre dans tes posts. Et quand je vois, j'ai essayé, hein. je vais pas te cacher, j'ai un Insta perso, je vais essayer de faire un fil d'actualité bien pensé avec genre tu sais des petites citations à chaque fois des deux côtés avec une photo de moi en train de faire du sport au milieu. Ça a duré je sais pas 6 semaines. Après je savais plus quoi faire, c'était le trou noir. Je lui dis, qu'est-ce que je fais? Bon, bah, je laisse tomber. Voilà, je vais consacrer mon temps à autre chose. Donc voilà, moi, c'est vraiment la principale raison. Maintenant, après, je sais très bien, il faut vivre avec son temps. Et aujourd'hui, c'est vrai que peut-être de passer plus de temps et de développer cette partie marketing, je veux dire marketing digital à ce niveau-là, pour l'activité, oui, ça me porterait peut-être plus de clientèle. Maintenant, après, moi, je suis sur une optique de... Je préfère avoir moins de clients et garder un aspect qualitatif sur ce que je propose comme expérience et prestations. Après, c'est question de parti pris. J'ai pas envie de tomber à dire je touche plus de monde je vais pas pouvoir gérer au détriment de la qualité de mon travail. Voilà, après, c'est juste une question de positionnement. Après, voilà, moi, ce serait la principale raison pour laquelle j'ai pas développé cet aspect-là. Après, peut-être que je vais y arriver. On n'en sait rien, mais pour le moment, en tout cas, c'est beaucoup de temps passé. Ça me prend beaucoup trop de temps par rapport à ce que je pourrais avoir comme retombée, à mon avis.
On en reparlera après. On en reparlera après le podcast. Toi, aujourd'hui, là, sur les... tu fais pas de prospection, du coup, comme tu as dit tout à l'heure. C'est pas toi qui vas chercher les clients. Mais quand eux viennent à toi, tu me parlais tout à l'heure d'entretien, etc. C'est quoi le process? Moi, demain, je viens te voir, on ne se connaît pas, je te dis, écoute, je veux perdre du poids parce que le confinement, il m'a bien dégommé, la salle de sport, elle s'était fermée. Est-ce que tu peux m'aider? Comment ça se passe? C'est quoi le process que tu as mis en place?
J'ai demandé de te parler de toi,
okay.
D'accord, au-delà de l'aspect sportif.
C'est quoi les questions précises? Tu as une liste de questions que tu poses à chaque fois?
C'est vraiment au feeling, hein. Okay. Généralement, je demande, alors déjà, c'est hyper important de savoir ce que la personne fait dans sa vie. D'accord, parce qu'on n'a pas tous la même charge, on va dire, de stress à boulot équivalent ou à poste qui peut être différent. Tu peux avoir des personnes qui ont beaucoup de responsabilités, qui vont très bien gérer leur stress, d'autres qui ont peut-être moins de responsabilités, mais qui gèrent très très mal leur stress, donc ça c'est hyper important, surtout dans les pertes de poids. On sait très bien que, bon, après je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout ce qui est cortisol au niveau hormone du stress, ça ne facilite pas la perte de poids. Donc c'est plein de petites questions, des fois tu as des personnes qui ont des traitements, qui ont des maladies, de diabète, qui prennent des médicaments sur du long terme, qui peuvent freiner ce genre de choses, par exemple sur une perte de poids. Donc ça va être, bah, te poser question, qu'est-ce que tu fais comme boulot, quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as fait du sport? Est-ce que tu as fait du sport toute ta vie? Est-ce que tu vas me dire non, j'ai fait que de l'EPS, tu vois? Par exemple, ça arrive souvent. On va dire non, j'ai fait que de l'EPS. Ok, d'accord, c'est une activité physique. Est-ce que tu as une activité physique? Est-ce que tu vas au boulot, comment tu vas? Tu vas à pied, tu prends les transports, tu vas en voiture. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Comment t'occupes ton temps libre? Est-ce que tu as des enfants? Parce que c'est aussi ça, on se rend pas compte, parce que là, moi aujourd'hui, je parle à mon niveau, j'ai pas d'enfants, mais je sais très bien qu'il y a 90% des personnes que j'ai en coaching qui ont des enfants, et arriver à gérer son boulot, les enfants, et se consacrer à se libérer un créneau pour faire du sport, parfois c'est pas évident. Donc beaucoup de questions comme ça qui vont faire que on va de fil en aiguille parler de sa vie perso, savoir et pourquoi surtout tu veux perdre du poids. C'est important de savoir. Je pense que c'est même la question principale. Et c'est là que tu commences à creuser un peu plus. Eux, en face de toi, ils vont se dire « Bon, il prend des informations sur moi. » Parce que déjà, c'est bien de s'intéresser à la personne, de savoir ce qu'elle a vécu. Et après, de comprendre les vraies raisons pourquoi la personne veut prendre du poids ou en prendre. Hein, parce qu'on parle souvent de perte de poids. Mais tu as des personnes qui sont très fines, qui depuis tout jeune se comparent à dire « Oui, je suis trop fin et il faut que j'explose. » Quand je dis exploser, c'est prendre de la masse musculaire. Et c'est pour moi, c'est équivalent. Mmh. Une personne qui veut perdre du poids, généralement, c'est pas... ça va pas être l'aspect santé, en premier. C'est un aspect plus visuel et dire, en fait, ou je m'aime pas, ou j'ai des complexes, ou ceci, ou cela. Et que ce soit une perte de poids ou une prise de poids, c'est, pour moi, c'est la même chose. Et surtout, comprendre pourquoi tu veux le faire. Mmh. Après, il y a différentes réponses, hein. Mais selon les réponses, au fur et à mesure que tu, par expérience avec tes clients, tu vas savoir d'où ça vient. Donc, c'est des questions à poser. Et pas juste dire, ok, tu perds du poids, ok, j'ai un programme de perte de poids pour toi.
Tiens, voilà. Prends-le.
Allez, c'est bien.
49 euros.
ça pourrait marcher, mais moi, je suis pas là-dedans.
Du coup, tu poses les questions. Si le feeling passe bien, tu l'acceptes en coaching, et c'est quoi la suite pour le coup? Qu'est-ce qui se passe ensuite?
Alors pour le coup, après on va essayer déjà de voir déjà ce que c'est aussi ça, c'est de savoir est-ce que oui ou non il y a besoin d'un plan de rééquilibrage alimentaire. Okay. Voilà. Bon après l'appli, il y a un module donc c'est très bien, ça gère à ce niveau-là. Des fois tu as des gens qui vont avoir besoin d'une diète stricte, d'autres une diète flexible. C'est vraiment selon les profils. T'as les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête à scanner avec MyFitnessPal ou voir ce que tu vas avoir comme apport sur tes macros au quotidien. D'autres qui vont te dire non, je préfère que ça soit strict, tu me dises ce que je mange, cela. Voilà. Après, c'est vraiment type de profil. Donc, déjà, savoir s'il y a besoin d'un plan alimentaire ou non, ou est-ce que c'est uniquement un programme sportif. Et après, au-delà de ça, après, c'est selon les profils. Tu as des profils, ils n'ont jamais arrêté le sport, ils ont juste besoin d'optimiser en fait leur entraînement. Ça arrive aussi, hein, des gens qui sont en salle de sport, tu vois, ils s'entraînent, ils ne perdent pas. En fait, juste, tu dois optimiser et réajuster correctement, que ce soit sur l'intensité ou le type d'exercice pour réaliser l'objectif. Et après, d'autres, ils vont débuter, ils partent quasiment de zéro. Et puis là, il faut leur réapprendre, faire en sorte que les muscles aient une intensité à un minimum, que tu recommences à retravailler, à entraîner tes muscles pour que tu puisses, au bout de 2-3 semaines, avoir un minimum de conditions physiques pour entrer vraiment dans ton coaching. Donc voilà, après savoir quand les gens sont dispo. Et puis après derrière, moi je suis disponible, hein, comme vous. C'est-à-dire que quand il y a des questions, il faut être là. Quand tu prends des personnes en charge, c'est pas uniquement de façon... c'est de façon totale, quoi. C'est pas de façon partielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as un client, tu l'accompagnes de A à Z. Bon, je vais pas non plus laisser mon téléphone et répondre à 3h du matin, mais quand tu me poses une question dans ton entraînement, il faut que je sois au moins dispo pour dire c'est ça que je voulais dire si t'as pas compris. Et d'être encore une fois à l'écoute des besoins et de questionnements et de savoir qu'est-ce que je peux faire à la place, là j'ai mal. Et surtout, ce que je fais souvent avec les personnes que j'ai avec l'application, c'est que dès qu'ils ont fait leur séance, c'est déjà de leur demander comment s'est passée ta séance, même s'il y a un formulaire sur l'application, mais de demander tout de suite comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a eu des soucis, est-ce que tout va bien, voilà. Parce que c'est de l'accompagnement aussi, ce boulot. Et je pense que cet aspect accompagnement, c'est aussi un argument pour les coachs, hein, de dire, bon voilà, quand tu fais du coach, tu dis pas juste, tu marques 3 exercices sur une feuille et vas-y, fais. Mmh. Et dans 6 semaines, on se revoit. Voilà, c'est...
Et en moyenne, il reste combien de temps avec toi tes clients ? Est-ce que déjà tu les engages sur un minimum ?
Oui.
Ok. C'est quoi le minimum ?
Minimum 6 semaines.
D'accord.
Parce que 6 semaines, c'est un minimum pour avoir un début de résultat sur un objectif. Que ce soit sur une prépa physique, sur de la course à pied, sur une perte de poids. Si tu fais attention, en 6 semaines, tu peux commencer à avoir des résultats. Mmh. Je suis pas magicien. Je peux pas faire perdre des kilos comme ça en claquant des doigts. Si je peux le faire, hein, je te dis d'arrêter de manger, tu fais du sport toute la journée, mais tu vas risquer peut-être de te blesser ou de mourir.
De mourir, tu m'étonnes.
Tu vois ? Donc, non, après, faut bien réussir à faire comprendre aux clients que voilà, tu es là pour faire en sorte qu'ils aient des résultats qui soient sur de longue durée. D'accord ? Que ce soit pas quelque chose de partiel. Tu as beaucoup de gens qui vont te faire rêver, te dire oui, vous allez perdre 10 kilos en 4 semaines. Ok, mais si tu en prends 20 après, je vois pas trop l'intérêt. Mmh. Voilà, il faut que ce soit quelque chose de permanent. Donc après, c'est toujours à bien expliquer, à expliquer aux clients qu'aussi, il faut arrêter aussi avec cette notion d'immédiateté. En fait, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent plus. En fait, ils veulent pas attendre, ils veulent tout de suite. Sauf que si on pouvait tout avoir tout de suite, on aurait tous des corps parfaits. Mmh. On n'aurait pas besoin de coach et je serais peut-être pas là en train de parler. Mmh. Donc à un moment donné, il faut aussi se rendre compte d'où on part et te dire, bon, bah faut peut-être que j'aille un peu moins vite pour que j'ai quelque chose de permanent que de vouloir aller trop vite et d'avoir quelque chose de temporaire et de regrossir 2 fois plus dans 2 mois. Quoi. Mmh. Bon, après, c'est à nous de convaincre, en tout cas en tant que coach, à convaincre les clients de, voilà, il faut avoir cette approche-là et pas... vouloir tout de suite.
Et généralement, il reste combien de temps avec toi tes clients ? Parce que si tu les engages sur un mois et demi, bon, il y a le minimum d'un mois et demi, mais à partir de...
On va dire qu'en moyenne, c'est sur une durée de 3 mois.
Ok, d'accord.
3 mois.
Ok. Donc, tu dois retrouver de nouveaux clients tous les 3 mois de ton côté ?
Jusqu'ici, ça vient, donc c'est cool. Mm. Voilà, j'ai cette chance-là, je vais pas te le cacher, le fait de d'avoir des clients, qu'il y ait des résultats, et le fait que je couche dans une salle de sport, forcément, les gens te voient, mine de rien. Donc quand tu vois que tu as un client qui est en train, ou quelqu'un que tu connais qui est en train de suer, que tu as des résultats rapidement, il va dire, ah bon, c'est super et tout, je vais peut-être faire appel à lui. Donc il y a aussi cette visibilité-là, que je pense qui fait que je peux que j'arrive à capter d'autres clients sans démarcher. Maintenant, après, ça m'est arrivé de reprendre les mêmes clients, mais pour d'autres objectifs. Okay. Aussi.
Okay. Et toi, de ton côté, t'as beaucoup parlé de l'app, je te remercie, mais c'est quoi les outils que tu utilises au quotidien en tant que coach sportif ?
Outils. C'est-à-dire au quotidien quand je coach quelqu'un.
Quand tu coaches quelqu'un, quand tu gères tes finances, tout en fait, tout ce que tu peux utiliser, tout ce que tu utilises, pourquoi tu l'utilises et comment est-ce que tu l'utilises dans ton activité de coach sportif. Histoire de vraiment comprendre que, parce que tu as beaucoup de coachs qui, comme tu l'as dit en début de podcast, c'est un job de passionné, mais il faut faire entrer de l'argent quand même. Tu vois, donc il y a besoin de le voir comme un business et d'avoir en fait cette mentalité là de se dire je suis capable de pouvoir investir dans des solutions, quand je parle d'outils, ça peut être une plateforme de formation, ça peut être l'Excel que tu utilises pour ta, bref, ça peut être tout n'importe quoi, mais de comprendre que en tant que coach, tu te dois d'avoir des... Aujourd'hui, on vit dans une époque où tu as la chance de pouvoir être accompagné, d'avoir des outils pour tout et n'importe quoi. Et c'est de savoir qu'est-ce que toi, tu utilises aujourd'hui, justement, dans tes coachings pour te faciliter la tâche, pour augmenter, justement, la valeur perçue de tes coachings. Ça.
D'accord. On va commencer par les outils informatiques. Okay. En fait, le but, hein, c'est de, quand j'utilise les outils informatiques, c'est d'automatiser des tâches pour gagner du temps. Donc, j'utilise beaucoup de formulaires sur Excel. Donc ça, c'est plus pour tout ce qui est calcul en fait de métabolisme de base selon les personnes avec les macros pour tout ce qui est partie rééquilibrage alimentaire. Pour tout ce qui est proposition de quand je fais la proposition avec les coachings, donc au niveau de mon email pro, j'utilise Ionos. Ok. Ensuite, j'utilise beaucoup Canva pour tout ce qui est formulaire, faire des présentations, du support de documents en début de prise en charge pour expliquer les principes de nutrition, ce genre de choses. L'application Gymkey, donc ça c'est au quotidien, ça c'est pour la partie programme sportif et programme alimentaire. Ensuite, comme outil vraiment spécifique au sport, j'utilise l'outil de chez Polar pour tout ce qui est tracking. Toi, tu l'as vu. C'est-à-dire qu'on investit dans des cartes de fréquence mètres, que pas forcément ceux que tu as à la ceinture, mais ceux optiques. Ça doit coûter, je crois, 90 euros, je crois. Mais bon, voilà, c'est un investissement. Tu en achètes plusieurs. Tu peux avoir jusqu'à 40 joueurs, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est-à-dire que si tu as même un small group à coacher, tous ils savent exactement, ils en sont où au niveau de leur dépense énergétique. Et pour eux, voilà, c'est un effet waouh.
Ouais,
voilà, c'est comme l'appli. Hein. C'est bête à dire, hein, mais aujourd'hui, tu dis, bon, voilà, il y a quelqu'un qui vient de voir, tu dis, bon, voilà, moi j'utilise une appli, je te montre, regarde la bibliothèque, voilà comment ça se fait. Ils vont faire, ah ouais, l'autre, le mec, là, il m'a proposé un truc avec un papier, un PDF, avec des photos et des couleurs, fait vite fait. Donc voilà, c'est juste. Bah déjà, ça te fait gagner du temps. Je pense que les gens te perçoivent plus professionnel. C'est que des outils, hein. On va pas s'en cacher. Ça veut pas forcément dire que tu es plus professionnel, mais en tout cas, c'est ce que perçoit le client. Que tu es quelqu'un de sérieux, que tu sais de ce dont tu parles et que tu es capable de l'accompagner là où il veut. Voilà, parce qu'on va pas se le cacher, on vit dans une ère du numérique. Si aujourd'hui, tu peux rester au papier, hein. Il y en a qui aiment bien le papier, hein. Mais comme les bouquins, il y en a qui vont acheter des bouquins, ils préfèrent avoir un bouquin en physique qu'une liseuse. Mais voilà, quoi. Aujourd'hui, il faut te dire que, en tout cas, dans ce métier-là, les gens que tu vas capter, que tu es capable de capter comme des futurs clients, le fait d'avoir l'application, ça envoie du lourd, quoi.
Okay.
Voilà. Et puis c'est tout, je crois, hein, comme outil, hein, que j'utilise au quotidien. J'ai pas d'autres.
Il n'y a pas de. Ouais, t'as pas encore de site web, donc il n'y a pas d'outil pour ça.
Voilà, je suis en train de regarder entre Wix et Webflow.
Webflow.
Ouais, mais toi, tu programmes.
Je programme pas, moi.
C'est vrai.
Moi, je programme pas du tout. Hein.
Non, je suis en train de réfléchir pour le coup. Je suis en train de réfléchir là sur le truc, parce que vu que j'ai déposé la marque à l'INPI, j'attends le retour d'examinateur, mais pour le coup, je vais voir. Parce que pour le coup, moi, ça va être vraiment. Ça va être un truc basique, hein. Ça veut dire je me présente, voilà, des témoignages, qui je suis, comment me contacter, et derrière, on travaille pas ensemble. Parce que, après, c'est peut-être. Après, c'est moi qui ai cette envie de bosser comme ça, mais par rapport à la cible de départ que j'avais, j'essaie de faire quelque chose de un peu comme du marketing exclusif. Je sais pas si tu te rappelles à l'époque comment travaillait OnePlus.
Non.
En fait, les téléphones, en fait, tu pouvais les avoir seulement si tu étais recommandé par quelqu'un.
Ok, d'accord. Comme Clubhouse, truc d'invitation.
Exactement.
Ok, d'accord.
Voilà.
Ok. Donc c'est pour avoir Harry, il faut passer par X personnes.
Bon, après c'est mon choix. Après voilà, après c'est comme ça. Après les gens adhèrent ou n'adhèrent pas. Maintenant, moi, c'est le choix que j'ai décidé de mettre en place.
Okay.
Et ça a l'air de plutôt bien marcher. Et puis, je vais essayer vraiment de pousser le truc maintenant, vraiment au max.
Ok. Toi, de ton côté, si demain, tu vois, tu as une personne qui est dans un job qu'elle souhaite changer, partir pour faire du coaching sportif, serait quoi le conseil que tu donnerais à cette personne-là?
Alors, c'est de bien réfléchir. Quand tu aimes le sport, est-ce que tu es capable de faire du sport à quelqu'un? Faire du sport et faire du sport à quelqu'un, c'est totalement différent. Tu peux aimer le sport, mais encadrer quelqu'un qui ne va pas forcément comprendre tout de suite ce que tu fais, si tu n'as pas de patience, il ne faut pas faire ce métier-là. Les adultes, c'est souvent des adultes que tu vas avoir en face de toi, donc dans ton esprit, les adultes, c'est moins pire qu'un enfant. Quand je dis moins pire, hein, c'est sur l'écoute. Non, c'est pire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un enfant, tu lui dis une fois, deux fois quelque chose, il va dire ok, il va prendre en compte. Un adulte, tu lui dis fais ça, il va dire oui, oui. Tu tournes la tête, et deux secondes après, il fait exactement la même merde. Et pour le coup, ouais, non, c'est surtout de bien être sûr qu'on a envie de faire du sport à quelqu'un. C'est vraiment un métier d'écoute. C'est un métier où c'est beaucoup de psychologie. Il faut aimer les gens. Si t'aimes pas les gens, fais pas ce métier-là. Fais autre chose. Mets-toi en freelance et fais consultant, je sais pas moi, dans un truc d'informatique ou pour une banque. Tu sais que t'es dans ton bureau, on vient te voir une fois par jour, et puis voilà, tu travailles seul. Parce que mine de rien, au quotidien, t'es avec les gens. Après, c'est un métier où faut pas trop. Il faut avoir de l'empathie, mais il faut arriver à prendre de la distance aussi. Parce que souvent, les. Bon, je pense que je sais pas si je suis le premier à dire dans les coachs que t'as invités sur le podcast, mais quand t'as des gens en face de toi, on est comme des coiffeurs. La même chose. C'est-à-dire qu'au bout d'une heure, tu connais la vie des gens. Et pourtant, c'est la première fois que tu vois la personne, en vérité. Donc, il faut être capable, en fait, de, encore une fois, d'écouter, d'arriver à cerner, et puis de prendre de la distance et. Essayer de pas trop non plus rentrer dans ce jeu-là, de dire voilà, j'ai des problèmes, ok, mais on est là pour faire du sport, c'est un moment pour toi, pense à toi. Les problèmes que tu as au travail ou les problèmes perso, on s'en fout. Là, c'est un temps, tu te le consacres à toi-même, tu payes quelqu'un pour atteindre tes objectifs, mets-toi 200% là-dedans, tu vois. Et si t'es pas capable, je pense, d'arriver à faire ça, faut peut-être réfléchir à faire autre chose. Mais en tout cas, si tu t'aimes les gens, tu as envie d'avoir un impact sur la vie des gens à ton niveau et que tu as envie d'être utile, fais ce boulot-là. Et toutes les personnes qui réfléchissent et qui sont prêtes, je les encourage à 200%. Je pense qu'aujourd'hui, une personne qui veut faire une reconversion, faut y aller. La vie, c'est court. Faut pas attendre 10 ans de faire mûrir un projet pour dire j'y vais, parce que des fois, il est trop tard, parce que physique, c'est un boulot qui est physique aussi, et il faut pas se cacher que ce boulot-là, c'est un boulot d'apparence, entre guillemets. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ta vitrine, quand une personne va venir pour perdre du poids, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais si t'as un coach qui est gros, un coach qui physiquement rend mieux, peut-être que celui qui est gros, il aura plus de compétences, hein. Ça, mais la personne, naturellement, l'humain, il va aller vers sur quoi je veux ressembler. Voilà. Donc, si tu te à 40 ans, tu te dis bon bah à 50 je vais peut-être faire la reconversion, bah peut-être que si ta cible c'est des seniors ou ouais pourquoi pas. Mais voilà, je pense que il faut sauter le pas. Si tu as envie de te reconvertir, donne-toi les moyens, et vu le nombre de personnes qui veulent le faire et qui ne le font pas, tu as plus de probabilités de réussir que ceux qui passeront jamais le pas. Donc pour le coup, ouais, moi j'encourage toujours les gens qui veulent se reconvertir. Moi moi j'ai mis du temps à le faire. J'ai de la chance, voilà, j'ai les opportunités qui sont présentées pour le faire au bon moment. Mais pour le coup, moi, en tout cas, aujourd'hui, je ne regrette pas. Ouais. Je m'éclate dans ce que je fais, et aujourd'hui, quand je prends des gens en charge, je n'ai pas l'impression de travailler. C'est beau, ce que je viens de dire. Ouais. Ça n'a pas de prix. C'est-à-dire que quand tu vas bosser, tu te dis, je suis utile, et j'aide les gens, je leur fais passer un bon moment, ils pensent à eux. Et t'as un impact sur eux. Et ça veut dire qu'après, eux, c'est des sources d'inspiration pour d'autres personnes aussi. Tu vois ? Parce que souvent, les gens viennent te voir, ils disent bon, bah, voilà, merci. Si, ils te remercient toujours, oui, merci pour tout. Mais je dis moi, je t'ai juste donné je t'ai juste aidé, je t'ai encouragé. Ça, c'est le premier truc. Ok, je t'ai mis une programmation en place, mais le boulot, c'est toi qui l'as fait. Moi, j'étais pas à ta place en train de suivre. Tu vois ce que je veux dire? Et eux, bah, de les rendre fiers, parce que ça, c'est la meilleure fierté pour nous en tant que coach, hein, c'est-à-dire d'arriver à les amener là où ils veulent, et eux, de devenir des sources d'inspiration pour d'autres personnes, tu vois, c'est un effet domino. Et ça, pour coup, je pense que ça, c'est pas un aspect que tu retrouves dans tous les métiers aujourd'hui. Donc si vous voulez être coach sportif et que vous voulez, allez-y. C'est un beau métier. Non, c'est vrai, c'est un beau métier. C'est un super beau métier.
C'est ce qu'on dit dans plusieurs postes, hein, c'est. Il n'y a pas de plus beau métier que les métiers où ton taf, en fait, c'est d'aider d'autres personnes, quoi. Donc, et coach sportif, c'est clairement ça. où c'est un métier où tu changes des vies, tu permets à des gens d'être en meilleure santé physique, mentale, de vivre plus longtemps, d'être en de s'aimer, d'avoir confiance en soi, bref, de plein de choses qui en découlent. Où est-ce qu'on peut te suivre, Eric? Qui t'es pas sur les réseaux.
À la station F.
On vient t'attraper ici devant.
Non, moi j'ai un Insta perso, voilà, c'est mon Insta qui est perso. Bon, il est public, hein, moi j'ai rien à cacher. Maintenant, je suis en train de réfléchir pour faire mon Insta professionnel. Je pense que ça va arriver dans très peu de temps, d'ici la fin de l'année. C'est tout en vrai. Tu vois, pour te dire à quel point l'aspect
réseaux sociaux,
ouais. Je suis vraiment très loin de tout ça. Alors, en fait, je sais pas si c'est du fait de la génération, mais après je vais pas te mentir, je me rends compte qu'aujourd'hui quand les gens viennent te voir, ils te demandent pas une carte de visite, ils disent est-ce que t'as un Insta. Ça c'est une réalité, hein. C'est pour ça, hein, que je suis conscient de ça, mais aujourd'hui voilà, j'ai réfléchi fortement. Mais donc pour me suivre, juste regardez le podcast, hein. Sinon vous envoyez un mail à Momo et il me donnera ses...
Je balancerai les coordonnées, ferai le transfert directement.
Voilà, exactement, et en même temps tu toucheras une com.
Oui, 20% minimum. Bon, écoute, merci Eri, on a passé 1h15 ensemble, c'était ultra intéressant d'avoir justement ce point de vue-là. De toi en tant que coach qui part d'une reconversion, qui devient coach sportif. Ça va... J'ai reçu la demande des questions sur ça, tu vois, des emails par rapport aux vidéos qu'on met sur YouTube, notamment sur la vidéo qu'on avait faite sur les diplômes en tant que coach sportif. Tu as des personnes qui nous ont dit, mais écoutez, moi je veux me reconvertir, comment est-ce que... quel diplôme je choisis, quel diplôme je fais. Donc je pense que ça va aider quand même pas mal de personnes. Donc merci pour ton temps, d'avoir partagé un peu ton expérience là-dessus. Bon, on va clôturer l'épisode. Est-ce que tu veux faire la conclusion? Est-ce que tu veux clôturer?
Non, bah déjà merci de m'avoir invité, parce qu'en fait moi je suis vos podcasts, donc moi je suis un ovni, hein. J'atterris là-dedans, je suis un ovni, hein. Moi j'ai pas des millions de followers voilà, donc moi je suis entre guillemets, je suis personne aujourd'hui dans le monde du fitness par rapport aux personnes que vous avez invitées. Donc je remercie de m'avoir invité, c'est gentil de pouvoir aider, au moins de partager mon expérience. Si ça peut aider certains à passer le pas, on aura gagné à ce niveau-là.
Ça va en aider pas mal à passer le pas, hein. Vraiment, t'as pas mal de personnes qui se posent des questions, et au moins il y aura un retour d'expérience là-dessus qui sera dispo, que les gens pourront regarder, écouter, comprendre et savoir que, comme tu as dit, hein, si tu sautes pas le pas, tu le feras peut-être jamais.
Exactement. Et au moins, c'est bien de pas avoir de regrets dans sa vie. Voilà, au moins de dire, je l'ai fait. Après, tu peux faire ta reconversion, te lancer, avoir ton diplôme et te rendre compte qu'en fin de compte, c'est pas du tout ce que tu veux. Et puis après, voilà, tu reviens dans ton boulot, tu trouves autre chose. Mais au moins, tu te diras pas, si j'avais su, j'aurais sauté le pas, tu vois. Donc, et moi, toi, j'ai cette dynamique dans ma vie, c'est cette approche, et de quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Voilà, j'ai pas envie de me dire, ouais, mince, j'aurais dû. Bah non, moi, je l'ai fait. Ça me plaît aujourd'hui, j'en suis très content, c'est-à-dire que j'ai pas de regrets. Ça se trouve que peut-être que dans 2 ans, je me dirais, bon, en fait, c'est plus pour moi, je vais faire autre chose, et puis je ferai autre chose. Mais au moins, pendant un moment de ma vie, j'aurais fait ce que j'avais envie de faire et ce que j'aime faire. Donc pour le coup, ça a vraiment pas de prix, quoi. Et puis,
à force de dire ça, tu vas peut-être faire leveur de levée de fonds, hein. Tu vas aller des startups aussi à levée de fonds.
Non, par contre, je vais venir coacher tous les gens ici, là. Ça fait pas mal de monde, hein.
Non, ça fait beaucoup de personnes.
Ah ouais,
ça fait peut-être beaucoup, beaucoup de personnes qui sont assises toute la journée.
Voilà, hein, la vie de sédentaire.
Il y a de quoi faire.
Les gens.
Il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire. Donc, merci beaucoup, Henri, pour tout ce que tu as partagé. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode jusqu'au bout. N'oublie pas d'aller voir le seul Insta de Eri ou d'envoyer un email si tu veux que je transfère directement. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Jim Key, de laisser le pouce bleu, de laisser les 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Ça nous aide énormément à faire en sorte que ce podcast soit visionné ou écouté par beaucoup de coachs sportifs. Nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Prochain dimanche à 14h15 pour un nouvel épisode. Et d'ici là, bon coaching et prends soin de toi. Salut.